Chapitre 48. Kill.
Tuez-le !
Répéta Crobleu.
Kill ! Kill !
Kill ! Scandaient en boucle les prémats. Kill ! Kill ! Les approchaient lentement, se tenant serrés les uns contre les autres, beaux de fer pointés, telle une marée compacte qui, inéluctablement, se refermait sur les huit intrus, dos plaqués contre le pont-levis à moitié relevé, et les engloutirait.
« Plus vite !»
ordonna Crobleu, toujours perché sur la passerelle 15 mètres au-dessus d'eux.
« De quoi vous avoir fort ? Tac, kill, tac, kill !»
Galvanisé, la marée de prémats chargea. 200 à dos, barre de fer en avant. Akan, Novak, Wayne et Florentine s'arc-boutèrent, et dès que leurs assaillants furent à portée de bow, les fauchèrent comme des épis de blé. Une dizaine de prémats s'effondrèrent, touchés aux genoux, aux coudes et aux épaules, mais déjà 20 autres les remplaçaient.
« À vous !»
cria Akan. Ils reculèrent d'un pas, alors qu'Elios, Diana, Cheyenne et Mook avançaient, et à leur tour, repoussaient une nouvelle attaque. Une dizaine de blessés furent évacués. Les prémats hésitaient à lancer un nouvel assaut, mais Crobleu ne leur laissa pas le choix.
« Sans seulement 8, continuez ! Tac, corps, les frapper, ou tac fort, les achever, ou tac mort, ou tac mort !»
Une nouvelle vague menaçait déjà d'emporter les 8 soldats, mais la ligne d'Akan, encore une fois, fit front et les obligea à reculer.
« On ne tiendra pas longtemps comme ça !»
assura Novak, alors qu'une barre de fer frôlait son cache-œil.
« Mook !»
lança Cheyenne.
« À toi !»
Les coups de bâton continuaient de pleuvoir de tous côtés. Florentine fut touchée à la hanche, Elios en plein dos, et Novak dut l'évacuer plus près encore du pont-levis. Il n'était plus que 4 à se battre, et pour un prémat qui tombait, 3 se relevaient. Le corps de chasse de Mook résonna soudain dans la cour du donjon, à en faire trembler les murs, à en glacer d'effroi les prémats.
« Leur cri de mort !»
aboyait Crobleu.
« Audito hors ! Tuez ! Tuez ! Kill ! Kill !»
Mook souffla encore une fois dans son corps, mais un coup venu sur sa droite projeta son instrument loin de lui. Quand il voulut le rattraper, un second coup l'atteignit à la tempe.
« Mook !»
hurla Cheyenne.
« Non !»
Elle hésita entre secourir son ami et des Wayne qui se battaient à 1 contre 6 ou couvrir son propre côté, débordé par 4 nouveaux prémats. Même Akan reculait. C'était fini. Ils allaient mourir ainsi, beaux au point, massacrés par plus nombreux qu'eux. Novak laissa tomber son arme. Florentine aussi. Le chapeau de Wayne était piétiné par des centaines de pieds. Cheyenne observa le visage ensanglanté de Mook. Il perdait progressivement conscience, tentant vainement d'attraper son corps, projeté à 2 mètres de lui. Sans doute croyait-il encore pouvoir souffler, une dernière fois, dans sa corne de cuivre. Le son du corps explosa alors dans leurs oreilles, comme joué par les anges. Tous regardèrent stupidement l'instrument gisant à leurs pieds, avant de sentir le sol trembler. Ils eurent l'ultime force de se retourner. La porte du pont-levis, qu'ils avaient gardée sans céder 1 centimètre, était presque entièrement baissée. Ils virent d'abord les étendards du grand cerf approcher à la vitesse de l'éclair. Ils virent les uniformes rouges et les armures briller. Ils virent les beaux tournoyer et Jean d'Arc, chevauchant Mistral, ne laisser à personne d'autre que lui le droit de franchir les douves en premier, criant à plein poumon
« Grand bois, avec moi !» « Grand bois, avec moi !»
répondirent derrière lui les 20 cavaliers. Akan et son commando eurent juste le temps de se plaquer de chaque côté de la porte ouverte. Les chevaux lancés au galop franchissaient le pont.
« La cavalerie !»
applaudissait Cheyenne.
« La cavalerie de Ligérie !»
Les prémats reculèrent, épouvantés par les lourdes armures des soldats et par la puissance des pur-sang, alliant souplesse et vitesse, virant, piaffant, se cabrant, frappant au hasard. Un immense sourire s'afficha sur le visage de Wayne et Florentine. Même Novak et Helios s'adressèrent un regard complice à Cheyenne, cette furie du tipi. Ils avaient tenu. Ils avaient ouvert une brèche. Toutes les forces libres pourraient s'y engouffrer. Ils pouvaient se féliciter. Ils pouvaient rire maintenant. Un rire qui s'envolait au-dessus d'eux jusqu'à la passerelle. Crobleu, lui aussi, riait.
« Tout le monde là ?»
demanda-t-il.
« Alors, tirons au rideau !»
Il donna un ordre de la main à un préma invisible, posté à l'une des fenêtres du donjon, et les deux chaînes de fer, derrière Hakan et ses compagnons, se mirent à grincer. Le pont-levis se relevait. Il réalisait soudain qu'il venait de foncer tête baissée dans un piège, tendu par Crobleu, pour attirer la cavalerie et éliminer les meilleurs stratèges. Hakan, aidé de Mouk et Novak, eut beau essayer de retenir le mécanisme, la porte se relevait, irrémédiablement, interdisant à quiconque de sortir ou d'entrer. La cavalerie de Ligérie continuait de tournoyer dans la cour du donjon.
« Sans que vingt !»
criait Crobleu sur la passerelle.
« Chevaux, mange pas, Fréma ! Val nouveau vu ! Avatez-les ! Tuez-les ! Tac-val ! Kill-val ! »
Les cavaliers manœuvraient avec le maximum de dextérité, mais il leur était impossible de prendre de la vitesse dans la cour intérieure, à part faire le tour du donjon. Les Prémas renversaient des bancs et tonneaux pour les ralentir. À chaque changement de direction, 10 bras agrippaient les cavaliers. Noélie et Clark manquèrent de peu d'être désarçonnés. Une nouvelle fois, la marée humaine de Prémas les submergeait. Crobleu était pris d'un rire fou.
« Tuez ! Kill ! Tuez ! »
Jean d'Arc, au prix d'une ultime manœuvre, lança Mistral au galop et fendit une haie de 10 prémas pour se rapprocher d'Akan. Le géant tentait désespérément de tourner la poulie du pont-levis, tout en repoussant les assaillants qui s'accrochaient à lui.
« Elle est bloquée !»
se désespérait Akan.
« Ce monstre la commande de là-haut !»
Jean d'Arc leva les yeux vers le préma tatoué.
C'est lui qu'il faut tuer! C'est à lui qu'ils obéissent! Sans lui, ils sont inoffensifs!
Le soldat tira sur les rênes de Mistral jusqu'à ce qu'il se cabre et rassembla ses dernières forces pour lancer son bow aiguisé en direction de la passerelle. La lance s'éleva dans les airs, puis retomba, ratant sa cible de plusieurs mètres.
Ce salaud est trop loin!
Enragea le soldat. Certains cavaliers étaient équipés d'arcs, mais les prémas grouillant autour d'eux ne leur laissaient pas le temps de les saisir et encore moins de les bander pour viser. Hakan comprit alors qu'il n'avait plus le choix. Ses camarades, cavaliers ou compagnons du commando tombaient les uns après les autres. Il ne restait qu'une solution pour mettre fin au massacre. La pire des solutions. D'un geste rapide, il ouvrit le pan de sa veste, dégaina le revolver glissé dans sa ceinture et le pointa en direction de la passerelle. Immédiatement, Crobleu comprit. Il avait reconnu le Colt Dragoon de Jacques. Le monstre tatoué amorça un bond de côté, même s'il savait qu'il n'était pas assez rapide pour esquiver les balles d'une arme à feu. Hakan avait anticipé. Le canon de son pistolet suivit les mouvements désespérés du chef des prémas. Il s'appliqua, pour être certain de ne pas rater sa cible, visa et tira. La détonation fit sursauter les belligérants un instant. Crobleu ouvrit d'abord des yeux exorbités, fixant le trou du canon pointé sur lui, le projectile mortel qui en sortait. Il serait le premier enfant du Nouveau Monde à mourir d'une balle en plein cœur. Il attendit que la douleur lui déchire le ventre, lui transperce le corps. Il ne sentit rien. Il renifla l'odeur de poudre, vérifia qu'aucun impact n'avait perforé sa poitrine, et se laissa traverser par un immense éclat de rire. L'arme que tenait le géant noir n'était qu'une pièce de collection. Un pistolet ancien, incapable de tirer des balles à plus de 5 mètres. Cet alcoolique de Jacques s'était encore ridiculisé. Il ne méritait même pas d'être vengé.
« Achevez-les !»
ordonna Crobleu.
« Quiconque ! Massacrez-les ! Qu'il meure ! Qu'il meure !»
Cette fois, les forces libres prisonnières de la cour du donjon étaient définitivement submergées. Le pont-levis restait désespérément levé. Personne ne pourrait les secourir. Ils ne pourraient pas s'échapper. Clark et Romagna tombèrent les premiers. 20 mains les arrachèrent de leurs montures et commencèrent à les battre à coups de barres de fer et de poings.
« Pitié ! Pitié !»
suppliaient les soldats en se recroquevillant, protégeant leur tête comme ils le pouvaient. Alors qu'elles luttaient encore aux côtés d'Akane, Cheyenne et Florentine furent elles aussi entraînées par la foule, désarmées et jetées à terre. Déjà une forêt de pieds les piétinait. Crobleu riait de toutes ses dents blanches. La fine fleur des forces libres avait été si facile à piéger. Des prémats firent tournoyer leurs frondes, des pierres coupantes volèrent.
« Par Marie-Lune !»
hurla Novak en essayant de protéger son unique œil.
« Grand bois, avec moi !»
tenta de lancer Diana avant qu'un poing ne lui déboîte la mâchoire. Crobleu se pencha encore au-dessus de la passerelle. Les deux commandants en chef, ce géant noir et ce soldat de carnaval sur son cheval, étaient à leur tour engloutis. La marée des prémats avait enfin pris le dessus, et eux aussi étaient maintenant roués de coups, incapables de se dégager.
« Va te quartier ! Tuez-les tous ! Qu'ils valent ! Qu'ils ferment ! Qu'ils hommes !
Mordelier sera fier de moi !» pensa Crobleu.
Il avait toujours su qu'il était le plus fort, le plus intelligent, et pas seulement pour un prémat, le plus cruel, évidemment. Et maintenant, il était aussi le plus beau. Il pourrait avoir toutes les filles qu'il voudrait dans l'ordre nouveau. Cette gitante, ou ces Lolly Girls, ou même Mordelia. C'était lui, le nouveau maître du monde, depuis qu'il avait tué Jacques, le dernier adulte vivant. Il avait tellement rêvé de cet instant, pendant ces longs mois, au palace, au milieu de ces idiots. Crobleu sentit des mains saisir sa tunique de cuir. 14 exactement, mais il n'eut pas le temps de les compter. Il voulut résister, se retourna, mais la surprise lui fit perdre les dixièmes de seconde qui auraient pu le sauver. Lundi et mardi avaient attrapé sa jambe droite, mercredi et jeudi sa jambe gauche, vendredi et dim ses deux bras, et Sam, violemment, le poussa. Le monstre se retrouva suspendu dans les airs pendant un instant d'éternité. Il eut le temps d'apercevoir le mesquin sourire de vengeance des 7 privilégiés, d'entendre leur murmure stupide « Yak, yak, yak !» d'observer la scène de bataille 15 mètres sous lui, avant de chuter comme une pierre. Le prémat géant s'écrasa au sol, visage contre pavé. Ses jolies dents d'émail blanc explosèrent dans sa bouche noyée de sang. 8 incisives pourpres et 10 molaires giclèrent avant de retomber dans le gravier. Les prémats les plus proches se figèrent, observant son corps disloqué. Puis, du geste le plus naturel du monde, ils laissèrent tomber leurs baux de fer. De proche en proche, les prémats s'arrêtaient soudainement de frapper, de piétiner les corps à terre, lâchaient leurs armes dans un délicieux vacarme et restaient immobiles, statufiés, tels des robots dont la commande générale aurait été bloquée. Le pont-levis s'abaissa comme par magie. L'ouverture était sans doute commandée de la passerelle par l'un des 7 privilégiés.
« Esteno !»
fit Sam, ce qui devait sûrement signifier « Nous n'avons plus rien à faire ici, nous rentrons nous reposer chez nous, revenez nous voir quand un nouveau chef aura été désigné. » Les centaines de prémats quittaient déjà le donjon, franchissant les douves par le pont-levis intégralement baissé. Certains calmement, d'autres en courant, rejoignant les camps sur les grandes îles de la Seine où ils dormaient, ou s'éparpillant dans les rues de Paris. Ils croisaient, indifférents, les soldats des 3 armées, qui s'engouffraient en sens inverse vers la cour intérieure de la forteresse. Comme si aucune guerre, aucun combat à mort n'avait été engagé quelques minutes auparavant.
Les prémats, pensa Akane en les regardant s'éloigner, ne sont que des êtres obéissants, aussi doux que dangereux. Il faudra longtemps pour effacer de leur coup la verte croix, pour leur apprendre à ne plus seulement obéir, mais aussi à réfléchir et à choisir. La paix du nouveau monde ne sera gagnée qu'à ce prix, celui de la patience et de la tolérance.
Moebia, Pastor et Galien, secondés par 4 autres infirmiers, évacuaient les blessés.
Ils ne sont pas gravement touchés,
annoncèrent-ils d'une voix rassurante, tout en emportant Novak un bandage sur le crâne Diana, une attelle autour de la jambe, et Helios, Mook et Cheyenne, les bras enveloppés dans des écharpes. Les soldats valides avaient commencé à explorer les pièces du premier étage du donjon.
Les ombrageurs se sont enfuis,
cria Rick, le commandant des forces primitives libres.
Bon débarras,
ajouta une voix anonyme.
On les poursuit dans les rues de Paris,
ajouta Idriss.
Dès la nuit tombée, je me ferai un plaisir d'arracher chaque poil de la barbe d'Orphéo et de sa bande de trouillards. On a aussi déjà capturé des collabos, Olympe, Minerva et Pépin, qui tentaient de s'échapper par la porte sud.
Et Bill, s'inquiéta Akan.
Il a été repéré, lui aussi, assura Vanille. Il s'enfuyait vers la forêt. Seul, on va le traquer comme un sanglier.
Trois autres soldats sortirent des salles du premier étage, le visage radieux.
Ils sont vivants! Tous!
Lancèrent-ils. Derrière eux, Flabel, Corentine, Zelig et Nadir s'avançaient, les yeux hagards, les cheveux fous, titubants plus que marchands, semblant découvrir la chaleur du soleil pour la première fois. Les quatre otages distribuaient des sourires de gratitude à en fissurer les pierres des remparts plus efficacement que tous les canons des savants. Une immense clameur de joie les salua. Les yeux riaient et pleuraient à la fois. L'ordre nouveau était en déroute. Il n'en restait que des lambeaux que le vent emporterait, quelques fuyards qui seraient vite rattrapés, quelques prisonniers qui seraient vite convertis. Les forces libres avaient triomphé. Jean d'Arc et Akan se rapprochèrent l'un de l'autre. Mistral broutait au pied des remparts les dernières touffes d'herbe épargnées par le feu des bombes vertes.
« Merci !» fit le soldat en tendant la main au géant noir. « Merci à toi et à ta cavalerie !» répondit Akan en tendant la sienne.
La dernière fois qu'il s'était ainsi salué, c'était 4 ans plus tôt, à l'issue de la bataille de la Cour Carrée.
« Tu me laisses quelques instants ?»
fit une petite silhouette blonde haut perché qui poussa le géant sans ménagement. Vanille avait trouvé le temps de troquer sa tenue de guerrière contre ses talons et son habituel tailleur gris-souris. Elle se jeta dans les bras de son soldat.
« T'as eu si peur, mon Jeannot ?»
avoua-t-elle en retenant un sanglot. Elle se reprit aussitôt et ajouta, sans prendre le temps de respirer.
« Tu te rends compte, 23 blessés, aucun mort, 113 prisonniers, dont 86 prémats et 27 primitifs à la verte croix, 125 feux grégeois confisqués, 16 538 lunes déjà récupérées !»
Akan s'éloigna, laissant les amoureux à leur confidence et une sournoise tristesse le gagner. Il aurait tant voulu partager ce moment avec Sabi. Où était-elle? Valère était-il capable de la protéger? Avait-il pu parler à Luponera? Plus les scènes de liesse se multipliaient autour de lui, plus il sentait la mélancolie l'envelopper. Il s'inquiétait aussi pour Alix, Zizo et cet empire de la mort qu'ils espéraient trouver. Un ordre dispersa brusquement l'écume amère de ses pensées. Il brisa dans le même élan les baisers et caresses que Vanille et Jean d'Arc s'échangeaient. Le fauteuil de Génor franchissait la porte du pont-levis.
Jean d'Arc et Akan, j'ai besoin de vous.
Ils fixèrent le grand cerf qui continuait de rouler vers l'escalier du donjon, sans un regard pour le champ de bataille.
Escortez-moi,
exigea l'ado handicapé.
J'ai donné l'ordre que personne ne monte jusqu'au dernier étage du donjon. Nous devons y pénétrer en premier. Je dois parler à Mordelia. En privé,